Ne nous est-il jamais arrivé de penser, ah oui, ce soir c'est la réunion de prière à l'église. Mais au lieu de nous montrer enthousiastes à l'idée d'aller prier avec les autres, de nous dire, ah, je ressens une forte fatigue ce soir, je ferais peut-être mieux de rester à la maison. Pour me reposer. J'irai quand même au culte ce dimanche. Et puis, la réunion de prière, c'est quand même quelque chose de moins essentiel. La preuve, il y a tellement peu de participants à la réunion de prière en semaine. La réunion de prière est pourtant quelque chose de ô combien important. Mais ne nous est-il jamais arrivé d'éprouver, de ressentir cette lutte intérieure ? Vais-je participer à la réunion de prière ou vais-je rester chez moi ? J'interromps pour pouvoir mettre le micro. Oui ? Bon, excusez-nous encore, nous allons interrompre l'introduction pour pouvoir récupérer le micro plus performant. Merci, Anthony.
Il existe deux cadres, deux contextes différents à la prière. La prière où on prie seul, le contexte de prière où on est seul à prier, et celui où on est à plusieurs à prier, à intercéder. La prière individuelle et, d'autre part, la prière collective. Et nous parlerons ce matin, si vous le voulez bien, mais même si vous ne le voulez pas, de la prière collective. Et pour illustrer l'importance de la prière collective, rappelons les récits de deux incarcérations que l'on trouve dans le livre des Actes, celle de Pierre, tout d'abord au chapitre 12 du livre des Actes, et celle de Paul et Silas, que l'on trouve un peu plus loin au chapitre 16 de ce même livre des Actes. Emprisonnement qui trouve chacun un dénouement inespéré, grâce à l'action, à l'impact, de la réunion de prière collective. Premier texte que nous lirons dans le livre des Actes au chapitre 12, mais on va lire peut-être quelques versets pour écourter la lecture et pour ne pas que ça prenne un temps trop important. Actes chapitre 12, versets 4 à 7, nous lisons. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles, devant la porte, gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et puis le verset 12 où nous lisons « Après avoir réfléchi, donc Pierre est sorti de prison et il se rend vers le lieu de prière dans la maison de Marie, où se tient réunie la cellule de prière. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Après l'exécution de l'apôtre Jacques, Étant donné que Hérode a vu que ça plaisait à la population juive, Hérode décide de jeter l'apôtre Pierre en prison. Ses pieds sont liés de chaînes et il est sous haute surveillance, gardé par 4 escouades. Il faut rappeler qu'une escouade, c'est un groupe de 4 soldats. 4 escouades qui vont être relevées toutes les 6 heures. Mais pendant ce même temps, une autre escouade de Christ, cette fois, réunie dans la maison de Marie, intercède avec ferveur en faveur de l'apôtre Pierre. Et le résultat est incroyable. Pierre est libéré, ses chaînes se brisent, le portail s'ouvre en fer de la prison s'ouvre automatiquement, une situation qui paraissait sans issue et qui trouve pourtant un dénouement favorable, un dénouement inespéré, grâce à la puissance de la prière collective. Remarquons que Pierre se trouve dans une situation d'épuisement au milieu de l'épreuve et qu'il parvient même à s'endormir dans une situation pour le moins peu confortable entre deux gardes, entre deux soldats. Il arrive effectivement que nous soyons écrasés, sans force, sans énergie à cause de l'épreuve et que nous ayons besoin de l'intercession, du soutien de nos frères et sœurs qui nous portent pour nous présenter devant le trône de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la maison de Marie. L'Église porte Pierre dans la prière d'intercession et le miracle se produit. Remarquons aussi que la cellule de prière, le noyau de prière qui est réuni dans cette maison de Marie n'est pas constitué d'un simple résidu de chrétiens, mais Luc, l'auteur du livre des Actes, précise que beaucoup de personnes participaient, au verset 12, participaient à cette réunion de prière. Probablement toute l'Église, l'Église dans son entièreté. Le second récit nous fait faire un bond de 4 chapitres dans le livre des Actes, puisque nous allons lire dans le livre des Actes, toujours au chapitre 16, à partir des versets 22 jusqu'au verset 33. Actes 16, verset 22 jusqu'au verset 33. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Donc il s'agit bien ici de Paul, l'apôtre, et de son compagnon Silas. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvés. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Jusque-là notre lecture. Paul et Silas se mettent en route pour se rendre dans un lieu de prière dans la ville de Philippe. Lorsqu'ils rencontrent, lorsqu'une femme possédée par un esprit de Python, nous dit Luc, un esprit de divination, un esprit de prédiction, commence à les voir et à les suivre, et à crier tue-tête, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer le chemin du salut. Et ça se répète comme ça pendant plusieurs jours, à plusieurs reprises. Et finalement, l'apôtre Paul commence à être excédé par l'intervention désordonnée de cette femme et ordonne à l'esprit impur de la quitter. Ce n'est pas tant le fond, mais bien la forme désordonnée, anarchique, la voix vociférante de cette femme qui discrédite le ministère de l'apôtre Paul. Et se voyant perdre leur gain, les maîtres de cette pauvre femme, de cette pauvre esclave, tiennent Paul et Silas pour responsables de leur manque à gagner. Il faut savoir qu'ils monnayaient le don, entre guillemets, de cette femme. C'est alors qu'ils vont amener Paul et Silas devant les autorités, devant les magistrats, devant les juges. Et Paul et Silas, après avoir été battus, couverts de verges, frappés, vont être à leur tour placés dans la prison. Quelle sera l'attitude de Paul et Silas? Vont-ils se révolter contre Dieu? Vont-ils murmurer? Vont-ils être désespérés? Toujours est-il que rien ne les empêche de louer Dieu et de prier. C'est aussi une prière collective, même s'ils ne sont qu'à deux. Ils prient Dieu et ils le louent. Pierre n'avait plus beaucoup d'énergie, comme nous l'avons vu. Et ça peut nous arriver, à nous aussi, d'être découragés, sans force, sans énergie, au milieu de l'épreuve. Mais Paul et Silas, quant à eux, chantaient des cantiques comme des oiseaux en cage, finalement. Et ils prient, ils prient. Ils organisent à eux deux une prière collective. Quelque chose d'interloquant pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quelque chose même d'étonnant pour nous. D'ailleurs, les autres personnes qui étaient incarcérées dans leur cellule n'en revenaient pas. Ils étaient sans voix, ils étaient étonnés. Des gens qui parviennent à chanter dans des circonstances pareilles, dans des conditions si tristes, si dramatiques. Ils chantent les louanges de Dieu. Et puis, le résultat ne se fait pas tarder. Les verrous vont sauter, les portes vont s'ouvrir, les fondations des murs de la prison vont trembler, vont se lézarder, vont se fissurer par l'action d'un tremblement de terre, Et après Pierre, c'est au tour de Paul et de Silas d'être libérés. Luc, à travers cet épisode, démontre encore la puissance et l'impact de la prière collective. L'impact de la prière collective. Et en relisant ces passages, je me suis posé cette question. Dieu reste le même. Sa puissance est la même. Ses promesses sont intemporelles. Pourquoi dès lors, si nous voulons être honnêtes, observe-t-on si peu souvent de résultats dans le cadre de nos prières collectives. Si le problème ne vient pas de Dieu, il ne peut venir que de nous. Pourquoi, finalement, si peu d'engouement pour la réunion de prière? Pourquoi négligeons-nous si souvent la prière collective? Je parle d'une manière générale, je parle de nos traditionnelles réunions de prière hors Covid, comme nos réunions de prière en Zoom. Pourquoi si peu d'engouement? Pourquoi finalement si peu d'intérêt? Où sont, comme le constate le prophète Ésaïe, les intercesseurs que Dieu réclame? Où sont-ils? Considérons-nous encore cette activité spirituelle comme étant comme faisant partie d'une priorité dans notre emploi du temps, comme c'était le cas pour les chrétiens de l'Église naissante, comme c'était le cas pour les chrétiens de l'Église primitive? On le voit. Luc, au début du livre des Actes, au chapitre 2, verset 42, dit « Ils, les premiers chrétiens, persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la prière. » Et puis, on le voit là, un peu plus loin, l'évangéliste Luc écrit « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Tous, pas une partie, pas un noyau résidu, mais tous. L'Église primitive avait pour l'habitude de se réunir afin de persévérer dans la prière. Et de grandes choses s'opéraient parce qu'ils étaient convaincus de l'impact de la prière collective. Pourquoi rencontrons-nous aujourd'hui tant de difficultés, tant d'obstacles à sa mise en application? Pouvons-nous encore sacrifier un peu de notre temps, un peu de notre énergie, un peu de nos moments de détente au profit de la réunion de prière? Les nombreuses activités et contraintes peuvent aussi limiter, voire empêcher notre participation, notre fréquentation aux réunions de prière. Bien sûr, il y a des situations qui sont imprévisibles, comme la maladie, comme le découragement, comme les imprévus, et qui peuvent nous priver légitimement de la réunion de prière. Mais est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de ne pas avoir envie d'aller à la réunion de prière? Moi, ça m'est déjà arrivé, comme à vous, je suppose aussi, hein, de ne pas avoir envie d'aller à la réunion de prière. Mais quelle bénédiction, quel réconfort, quelle paix, quel bien-être intérieur après m'être efforcé de me rendre à cette réunion de prière. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Inscrivons ce rendez-vous comme étant un must dans notre agenda. Dans nos agendas. Sachons faire preuve de volonté, de détermination, de discipline, même si parfois on doit s'efforcer, même si parfois on n'a pas toujours envie de nous rendre à cette réunion de prière, même si parfois on arrive en retard. Efforçons-nous. Je ne parle pas de moi. Même si parfois, eh bien, on n'a pas d'engouement particulier, d'enthousiasme particulier pour nous rendre dans le cadre, pour nous rendre à la réunion de prière collective. Efforçons-nous. Sommes-nous, frères et sœurs, toujours convaincus de la puissance et de l'impact que peut avoir la réunion de prière collective? Croyons-nous que nos prières peuvent encore bousculer, bouleverser l'ordre des choses? Quelqu'un a écrit ceci. La réunion de prière est à l'Église ce que la chaudière est à la maison. C'est par elle qu'est vécue la puissance qui met tout en action. Une chaudière qui est défectueuse, et nous en savons quelque chose, eh bien, aura peu d'impact sur les radiateurs. Une chaudière qui est en panne aura peu d'impact sur le circuit. Est-ce que nos réunions de prière peuvent être comparées à une chaudière qui tourne à plein régime, bien réglée, performante, qui montre son efficacité au niveau de tout le circuit du chauffage central? À quoi ressemblent nos réunions de prière? Connu pour ses prédications saisissantes, le prédicateur Charles Spurgeon, qu'on connaît bien, dont le ministère secoua les îles britanniques, reconnaissait en permanence avec humilité et modestie que son impact résultait des prières des membres de son Église. On a souvent fait la remarque que c'est toute la congrégation qui contribua à produire, entre guillemets, Spurgeon. Ce n'était pas un homme seul, mais c'était toute une équipe. Et lorsque des visiteurs venaient dans son église, Spurgeon avait l'habitude de les amener dans le local de prière au sous-sol, dans lequel se trouvaient toujours des personnes à genoux, en train d'intercéder. Alors Spurgeon déclarait « C'est ici le centre de puissance de cette église ». Il appelait d'ailleurs cette pièce en sous-sol la chaufferie, là où se trouvait la chaudière. C'était le lieu qui donnait le dynamisme à toutes ces entreprises spirituelles. Et il cite encore par ailleurs, « Je préfère enseigner à un homme de prier plutôt qu'à 10 à prêcher. » Je préfère enseigner à un homme de prier plutôt qu'à 10 de prêcher. Pour terminer, dans son livre « L'art perdu de prier ensemble », James Banks écrit, et c'est paraphrasé par un certain écrivain Po Yang Hya, « Il était une fois, écrit-il, un roi qui avait 7 fils et filles. Un jour, les enfants de ce roi ont souhaité recevoir une chose qui profiterait grandement au royaume, quelque chose de louable donc. Ils ont donc envoyé le frère aîné en faire la demande, mais le père n'a pas dit oui. Il a demandé à son fils d'amener sa sœur pour qu'elle aussi lui présente sa requête. Et cela s'est répété jusqu'à ce que tous les fils et toutes les filles se trouvent devant le roi. Ils lui ont donc présenté leur demande ensemble et le roi y a consenti immédiatement. Il a dit « Je vous aime tous tendrement, ne vous méprenez pas. Chacun de vous occupe une place spéciale dans mon cœur. Mais lorsque je vous vois réunis tous d'accord sur ce qui est bon, mon cœur déborde de joie. Demandez tout ce que vous voulez, puisque tout ce que j'ai vous appartient. Tout ce que j'ai est à vous. » Et c'est cela, la force de la prière communautaire, l'impact de la prière en groupe. Luc, à travers les épisodes des deux incarcérations que nous avons rappelées, nous démontre aussi la prière et l'impact, la puissance et l'impact de la prière collective. Et frères et sœurs, sommes-nous convaincus qu'aujourd'hui encore, à travers nos moments de prière communs, Dieu peut faire sauter les verrous de nos peurs, les verrous de nos angoisses. Dieu peut briser les chaînes de nos asservissements. Dieu peut briser les chaînes de nos dépendances. Dieu peut renverser des murs que nous pensons infranchissables, comme les murs de Jéricho. Écoutons ce qu'écrit Paul dans 2 Corinthiens, et nous terminerons par la lecture de ce verset au chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les murs. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Elles consistent en intercession, une puissance qui fait bouger le bras de Dieu pour intervenir dans les situations les plus complexes, celles qui nous semblent inextricables de prime abord. Dieu intervient lorsqu'il entend ses enfants lui demander quelque chose d'un commun accord. Que Dieu nous aide à réaliser l'impact que peut avoir l'importance de nos réunions de prière. On va prier ensemble, et après, eh bien, on chantera un dernier chant. Seigneur notre Dieu, nous voulons considérer ta sainteté comme il nous l'a été rappelé à travers ces chants et à travers ces passages que nous avons rappelés. Tu es ce Dieu qui est à part. Tu es ce Dieu qui est élevé au-dessus de toute chose. Tu es le Dieu qui est transcendant. Tu es le Dieu qui est le tout autre. Tu es le Dieu qui pourtant s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui aussi, saint. Et Seigneur, merci parce que tu nous as rendus participants à ta sainteté par la sanctification dont nous sommes au bénéfice par ce que Jésus a enduré sur la croix pour chacun d'entre nous. Merci de continuer à nous sanctifier par ta parole, à nous transformer afin que nous puissions toujours davantage ressembler à notre divin modèle Jésus, qui nous a laissé un exemple. Seigneur, nous te remercions aussi pour ta parole qui est là pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous reprendre peut-être parfois aussi. Merci de nous avoir rappelé ô combien il est important de se réunir dans des temps forts de prière pour te demander des choses qui nous dépasse, qui à vue humaine nous semble insurmontable. Mais toi, tu es au-dessus de toute chose. Tu es le Dieu et tu restes le Dieu tout-puissant, celui qui domine, celui qui régit, celui qui bouleverse, qui peut changer l'ordre des choses. Nous voulons nous attendre à toi et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à davantage prendre conscience de l'impact que peut avoir la prière communautaire. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen.